France Culture.
Le journal est signé Adrien Toffolet. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La colère sur le point d'envahir les rues en Turquie après 3 jours de mobilisation contre l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. La contestation s'intensifie à quelques heures de la rupture du jeûne du Ramadan. Des milliers de manifestants se rassemblent, notamment en ce moment devant la mairie d'Istanbul, et les jeunes, les étudiants sont nombreux à y participer. Dans l'actualité également, le sort des Gazaouis, en permanence déplacés, à qui le ministre israélien de la Défense entend annexer les terres si le Hamas ne libère pas les otages du 7 octobre. En France, la réforme du RSA et son application, les bénéficiaires risquent la perte totale de l'allocation en cas de non-respect de leurs nouvelles obligations, c'est ce que veut le gouvernement. Que reste-t-il de la loi d'orientation agricole après censure partielle hier d'un tiers des mesures par le Conseil constitutionnel? Et puis le dossier du journal consacré à l'affaire Betaram et l'un des agresseurs présumés, le père Karikar. La Turquie s'enflamme un peu plus chaque jour depuis l'arrestation mercredi du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, principal opposant au président Recep Tayyip Erdogan, accusé de terrorisme et de corruption. Son parti, le Parti Républicain du Peuple, ou CHP, multiplie les appels à manifester aux grandes dames du pouvoir qui craint un regain de mobilisation dès ce soir après le repas de rupture du jeûne du Ramadan. Parmi les manifestants, on compte de nombreux étudiants dont la protestation va très au-delà du sort réservé au maire d'Istanbul. À Ankara, Anand Lower a rencontré 2 de ces jeunes Turcs en colère.
Eren et ses amis ont rejoint les protestations dès le jour de l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu. Pour cette étudiante en droit, il ne s'agit pas seulement de soutenir le maire d'Istanbul.
İmamoğlu, c'est le catalyseur. Mais bien au-delà de sa personne, les jeunes sont dans la rue parce qu'on en a ras-le-bol de vivre dans ce pays où le droit n'existe plus.
Dans les grandes villes étudiantes, la jeunesse est en première ligne. Ces jeunes que certains disent apolitiques, qui étaient encore des enfants à l'époque des manifestations antigouvernementales de Gezi en 2013. Eşil, 22 ans, dénonce un cliché.
Les jeunes ne sont pas apolitiques. Depuis des années, beaucoup ont peur. Ils sont paralysés, réprimés par le pouvoir. Mais je sens que quelque chose est en train de changer, de se casser et que ça va continuer.
Pour la première fois depuis Gezi, le CHP, premier parti d'opposition, celui d'Ekrem İmamoğlu, appelle à descendre dans les rues. Pour Eşil, le mouvement de contestation pourrait se généraliser à une condition.
Si le CHP continue d'appeler les gens à descendre dans la rue, c'est la seule façon de convaincre ceux qui critiquent le gouvernement mais le font de chez eux sans passer à l'action. Il faut leur faire sentir que se mobiliser peut réellement changer quelque chose.
En attendant, ces étudiantes continuent de braver l'interdiction de manifester, décrétée à Istanbul, Ankara et Izmir, les 3 plus grandes villes turques.
En ce moment même, à Istanbul, au moins 10 000 manifestants font route vers la mairie. Recep Tayyip Erdogan assure quant à lui qu'il ne cédera pas à la terreur de la rue. Au Proche-Orient, les bombardements massifs d'Israël sur la bande de Gaza se poursuivent en violation de l'accord de trêve avec le Hamas depuis le début de la semaine, avec de nombreuses victimes. 2 ressortissants français et employés des Nations Unies ont été sérieusement blessés par des frappes israéliennes, annoncées cet après-midi, le ministère français des Affaires étrangères qui fait part de sa consternation et appelle à ce que toute la lumière soit faite rapidement. La France, qui s'est opposée tout à l'heure également par la voix du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, à l'ordre lancé par le ministre de la Défense Israël Katz, qui appelle à annexer des territoires à Gaza si le Hamas ne rend pas les otages du 7 octobre. Depuis mardi, des dizaines de milliers de Gazaouis ont encore dû faire leurs valises sans savoir s'ils pourront revenir. Reportage signé Rami Almagari à Gaza et Thibault Lefebvre à Jérusalem.
Pendant la trêve, Nidal est revenu au nord de Gaza, s'installer sur les ruines de sa maison de Beit Hanoun. Il a même envisagé, pendant quelques jours, reconstruire et repartir de zéro. Et puis Israël a repris la guerre.
Les forces d'occupation ont lâché des tracts pour nous dire que nous étions désormais en zone de combat dangereuse et que nous devions quitter immédiatement Beit Hanoun, qui est désormais classé en zone rouge, de peur qu'ils ne commettent de nouveaux massacres et de nouveaux carnages contre la population. Tous les habitants de Beit Hanoun sont partis.
Nidal, comme tous les déplacés de Beit Hanoun, a planté sa tente à l'ouest de la ville de Gaza. Et c'est là que le journaliste Rami Almagari a rencontré Hazar, entouré de ses enfants.
J'ai tellement peur que la guerre à grande échelle reprenne comme avant. La trêve nous a offert un court répit. On a pu souffler un peu, même si on a tout perdu, y compris notre maison. Mes enfants sont très jeunes. Ils ont tellement souffert durant cette guerre. Ils sont terrifiés. Et à présent, les bombardements reprennent et nous obligent à fuir de nouveau.
Comme Azar et Nidal, ils sont, selon l'ONU, près de 70 000 déplacés, contraints à un exil forcé depuis mardi dernier. Si Israël met à exécution ces menaces dans les prochains jours, ils pourraient évidemment être beaucoup plus nombreux.
En Arabie Saoudite, c'est l'espoir d'une trêve partielle entre la Russie et l'Ukraine animera les discussions qui auront lieu finalement lundi à Riyad, sous l'égide des États-Unis. Alors que le Kremlin ne montre pas de signe de détente sur le terrain, la nuit dernière, une attaque aérienne massive au drone a touché l'Ukraine. La Russie a montré qu'elle ne partageait sincèrement pas la volonté de paix, réagit Emmanuel Macron aujourd'hui. Le président français un peu plus convaincu, s'il le fallait, de la nécessité d'organiser la défense du continent européen. Sujet discuté hier à Bruxelles lors de la réunion des 27 chefs d'État et de gouvernement de l'UE et cet après-midi lors d'un briefing du président du Conseil européen Antonio Costa avec plusieurs partenaires non membres de l'Union, Royaume-Uni, Turquie, Norvège et Islande. Objectif Fabien Cazot, les associer à l'effort.
La sécurité du continent, ce n'est pas que l'affaire de l'Union européenne. C'est ce qu'expliquaient encore hier soir des diplomates en marge du Conseil qui rappellent que pour l'instant, le véritable bras armé de la sécurité européenne, c'est l'OTAN, dans laquelle siègent des pays non membres de l'Union européenne. Les liens avec le Royaume-Uni notamment se sont considérablement raffermis ces dernières semaines à la faveur de l'arrivée au pouvoir du travailliste Keir Starmer. Un mini-sommet euro-britannique est d'ailleurs prévu pour le mois de mai. Le livre blanc européen sur la défense consacrait avant-hier la Grande-Bretagne comme un allié essentiel de l'Union européenne. Autre allié de poids, la Norvège, dont le fonds souverain richement doté pourrait également contribuer à l'effort de défense européen, d'autant que la Norvège possède une frontière commune au nord avec la Russie. La Turquie, enfin à l'autre extrémité du continent, pourrait s'avérer être un allié essentiel en mer Noire face au risque d'agression russe dont les Européens craignent une recrudescence dans les années à venir.
En France, les bénéficiaires du RSA risquent-ils de perdre tout ou partie de leur allocation en cas de non-respect de leurs obligations? La piste est sérieusement étudiée par le ministère du Travail, 4 mois après l'entrée en vigueur partout en France, du RSA sous condition, c'est-à-dire l'obligation de dédier une quinzaine d'heures par semaine à la formation, aux entretiens, à des ateliers ou encore des immersions en entreprise. 1,8 million de personnes sont concernées. Et Cyril Ardot, cette suspension pourrait aller jusqu'à 100% de l'allocation.
Dès le premier manquement, le projet de décret prévoit une suspension de 30 à 100% de l'allocation pendant 1 à 2 mois, avec la possibilité pour le bénéficiaire de récupérer cette somme s'il se remobilise durant ce délai. Au deuxième manquement, les sanctions peuvent être alourdies, suppression de l'allocation pour une durée allant jusqu'à 4 mois, voire radiation de la liste des bénéficiaires du RSA. Pour Nathalie Hannet, présidente de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage, il y a erreur sur la méthode.
La majorité des personnes qui sont allocataires du RSA, elles n'ont pas choisi cette situation. Au lieu de mettre de l'énergie et des moyens à les sanctionner, plutôt mettre de l'énergie et des moyens à mieux les accompagner. Vous pouvez avoir des personnes qui présentent des difficultés en termes de santé, en termes de santé mentale, qui les rendent beaucoup moins énergiques dans leur capacité à engager ces démarches.
Le ministère du Travail, dans son projet, prévoit quelques garde-fous. Le bénéficiaire pourra contester la sanction et pour les foyers de plus d'une personne, l'allocation ne pourra pas être suspendue à plus de 50%. Mais dans le fond, pas de changement radical. Ce type de sanction a toujours existé selon Gwenaël Poisson, vice-président du conseil départemental de Mayenne, en charge de l'insertion. Le département teste le RSA sous condition depuis 2023.
Lorsqu'ils ne respectaient pas leurs devoirs, effectivement, les gens pouvaient être sanctionnés. Ça, c'était avant l'expérimentation, hein, déjà. Le nombre de suspensions sur le département, alors j'ai 2022, 2023, 2024, on est autour de 360. on reste sur les mêmes chiffres. Donc, on ne peut pas dire que l'expérimentation nous a fait fonctionner davantage.
Et à ce stade, le projet de décret manque encore de précision. On ne sait pas quel type de fautes donneront lieu à des suspensions de 30% du RSA et lesquelles entraîneront des sanctions plus importantes.
Luc Rémont ne sera pas reconduit à la tête d'EDF. Le PDG devrait être remplacé selon le souhait de l'Élysée. Après des mois de négociations tendues avec l'État sur les prix de l'électricité, le président de la République propose Bernard Fontana, actuel directeur général de Framatome, acteur majeur de la filière nucléaire. Sa nomination devra encore être approuvée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Au lendemain de la censure partielle de la loi d'orientation agricole, la contestation des agriculteurs reprend de la voix. La coordination rurale, le syndicat, aujourd'hui accuse les sages de déclarer la guerre aux agriculteurs. Un tiers des articles de la loi ont été retoqués, ce qui fait tout de même dire à la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, que l'essentiel des mesures concrètes pour les agriculteurs a été validé. Et il est vrai, Catherine Pétillon, que sur le fond, le texte ne change pas énormément.
Censure partielle, victoire partielle, disent en substance la gauche et les écologistes, qu'il s'agisse des élus ou des associations. Ils contestaient de nombreuses mesures de la loi, actant des reculs environnementaux. Certaines ont été retoquées par le Conseil constitutionnel, comme le principe de non-régression de la souveraineté alimentaire ou l'impossibilité d'aller plus loin que ce qu'exige l'Europe. Sur le sujet très débattu des atteintes à l'environnement, la décision marque une évolution partielle, comme sur la question du contrôle des agriculteurs. Le Conseil constitutionnel a retoqué l'article qui consacrait la bonne foi présumée des agriculteurs. Les sages ont en revanche maintenu la dépénalisation de certaines atteintes à l'environnement lorsqu'elles ne sont pas commises de manière intentionnelle. Elles donneront lieu au maximum à une petite amende administrative ou au suivi d'un stage. Parmi les mesures particulièrement contestées par la gauche et les associations environnementales et qui restent dans le texte, celle qui prévoit de ne pas interdire les usages de pesticides autorisés en Europe en l'absence d'alternatives viables. Traduction du slogan de la FNSEA, pas d'interdiction sans solution. Les sages n'ont pas non plus censuré l'article qui accorde la présomption d'urgence en cas de contentieux sur la construction d'une réserve d'eau, les fameuses bassines. Si 18 articles ont été censurés, l'esprit du texte, lui, n'est pas fondamentalement changé. Le Conseil constitutionnel ne pouvait pas revenir sur la trajectoire globale du texte. Il verrouille notre agriculture dans un modèle qui ne permet pas de répondre aux enjeux du revenu et de la transition agroécologique, a réagi l'association Génération Future.
Nous sommes à un an des prochaines élections municipales et depuis ce matin, sur notre antenne, nous analysons les enjeux pour les principales forces politiques. Intéressons-nous ce soir aux écologistes qui ont réalisé leur percée historique au niveau local en 2020. De grandes villes conquises, citons Lyon, Bordeaux ou encore Poitiers parmi la vingtaine de cités remportées, que les écologistes entendent bien garder l'année prochaine tout en espérant d'autres succès. Mélanie Kuzelevitch, le contexte national et international est toutefois bien différent de celui de 2020.
Quand on est arrivé, on était des bleus. Il faut être honnête, reconnaît une proche de la maire écologiste de Besançon, Anne Vigneault. Mais en 5 ans, de grands chantiers ont été lancés et l'équipe a tenu bon face aux accusations d'écologie punitive et de wokisme d'une partie des opposants. L'idée de la campagne à Besançon, c'est de garder le cap, explique l'entourage de la maire. Dans la périphérie de Grenoble, le maire écologiste de Saint-Égrève, 18 000 habitants, défend son bilan. 80% des 300 mesures annoncées ont été lancées, affirme Laurent Amadieu. Reste maintenant à construire le programme du prochain mandat avec le reste de la majorité de gauche qui ne s'est pas fracturée, contrairement à la NUPES et au NFP, souligne le maire. À Bordeaux, Lyon, Poitiers, la préparation de campagne, on commence à y penser, mais pour l'instant, les maires se concentrent sur la fin du mandat. Pour le parti, en tout cas, les municipales sont la priorité du moment, affirme un cadre écologiste. C'est vrai que le contexte n'est pas aussi favorable qu'en 2020, admet-il. À l'époque, les enjeux climatiques étaient porteurs. Aujourd'hui, les tensions internationales ont pris le pas sur les questions environnementales. Pour autant, les maires écologistes vont faire campagne sur leurs thématiques de prédilection. Comment se protéger face au dérèglement climatique, la canicule, la perte de la biodiversité? Cela reste une préoccupation des électeurs. L'autre enjeu, c'est de maintenir l'union des forces de gauche. Mais malgré les tensions entre le Parti socialiste et la France insoumise au niveau national, au niveau local, tout le monde est bien conscient que pour l'emporter, il faut rester unis.
Mélanie Kuzelevitch, le dossier de ce journal est consacré à l'affaire Notre-Dame de Bétarame, alors que les représentants des collectifs de victimes de ce collège lycéen lycées catholiques privés des Pyrénées-Atlantiques ont été auditionnés hier à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête sur la prévention des violences dans les établissements scolaires. Selon ces derniers, au moins 180 plaintes ont été déposées pour des faits de violence, d'agression sexuelle et de viol sur une période allant des années 50 aux années 2000. Bonsoir Marion Aquilina.
Bonsoir.
De la cellule investigation de Radio France, vous avez enquêté sur l'une des figures de l'établissement.
Oui, le père Pierre-Sylvier Caricard, professeur de philosophie à Bétarame, puis directeur de 1987 à 1993. Tout le monde lui fait confiance dans la région et l'apprécie, les familles, les enseignants aussi qui travaillaient avec lui, comme le raconte Alain Bourillon, professeur de français latin pendant 18 ans à Bétarame.
C'était un petit homme rond, affable, souriant, avec plein d'humour. Jamais j'aurais pensé qu'il y avait le Mr. Hyde qui se cachait derrière. Il y avait quand même parfois des attitudes, des mains passées dans le dos. C'était trouble, voilà, on était troublés. Maintenant que je sais malheureusement que c'était un homme à double visage, il voulait surtout pas que le système s'effondre.
Mais en 1997, un ancien élève porte plainte pour viol contre le père Caricard. C'est le juge Christian Mirande qui instruit le dossier. Jusqu'en juin 97, François Bayrou est ministre de l'Éducation nationale. Il est également président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, mais aussi parent d'élève. Et il habite dans le même village que le juge. Et selon Christian Mirande, il vient pour lui parler.
C'était une entrevue où il a été question de son fils qui était élève à Bétarame. Moi, je l'avais rassuré pour son fils. Il n'arrivait pas à croire que Caricard ait pu commettre des faits aussi ignobles. Et je l'en avais dissuadé en lui disant que les faits étaient patents et établis.
Et c'est parce que l'affaire est suffisamment sérieuse aux yeux du juge qu'il décide de mettre en examen le père Caricard. Mais juste avant qu'il ne se retrouve en face du juge, le gendarme chargé de l'enquête, Alain Hontan, a le souvenir d'un événement assez inhabituel.
Monsieur Mirande m'attendait devant sa porte. Il vient me voir et il me dit, monsieur Hontan, on va retarder la présentation. Le procureur général demande à voir la procédure que j'avais sous le bras, il y a une intervention de Monsieur Bayrou. Une intervention du procureur général avant une présentation, c'était la première fois que ça m'arrivait.
Et le juge d'instruction Marion confirme-t-il que François Bayrou a bien tenté d'intervenir dans la procédure ?
Il explique qu'il ne s'en rappelle plus. Le procureur général, lui, est décédé. Quant à François Bayrou, il dément catégoriquement. Quoi qu'il en soit, le père Caricard est écroué, mais son avocat fait appel et il est finalement libéré sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter la France.
Sauf que, précisément, cette interdiction de quitter le pays est finalement levée.
Oui, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans un arrêt de juin 1999 de la chambre d'accusation de Pau dont nous révélons le contenu. Plus d'interdiction de quitter la France à la demande du procureur général. Le père Caricard retourne alors à Rome, au siège de la congrégation, incompréhensible pour le juge Christian Mirande.
La remise en liberté de Caricard m'avait choqué, d'autant plus qu'elle lui permettait de partir et d'aller dans un pays étranger. J'étais choqué pour la poursuite de l'enquête.
Un an plus tard, le juge reconvoque le père Caricard suite à un nouveau témoignage de viol. L'ancien directeur de Bétarame décide alors de se suicider à Rome. Ses obsèques sont organisées à Bétarame le 10 février 2000 en présence de l'évêque du diocèse. Aujourd'hui, selon le procureur de Pau, 15 anciens élèves de Bétarame disent avoir été agressés ou violés par le père Caricard.
Marion Aquilina, merci pour cette enquête réalisée en partenariat avec ICI Béarn Bigorre. La couleur de peau est-elle un critère majeur dans l'attribution des rôles au cinéma et au théâtre? La question des inégalités de représentation est au cœur d'une étude commandée par le ministère de la Culture. Elle est intitulée « La couleur des rôles, l'origine perçue dans la distribution artistique » et fait suite à la publication en 2022 d'un état des lieux de l'égalité femmes-hommes et de la diversité dans la production cinématographique française, le cinéma étant l'un des rares milieux où l'on peut recruter en fonction de critères ethniques et de genre. Bonsoir Pierre Ropert.
Bonsoir, bonsoir à toutes et tous.
Les conclusions de l'étude montrent que les comédiennes et comédiens perçus comme non-blancs subissent des contraintes dès la distribution des rôles.
Oui, les milieux du cinéma et du théâtre ont beau faire des efforts pour représenter la diversité, les rôles qui sont proposés aux personnes perçues comme non-blanches restent restreints. C'est ce qu'explique Sarah Lécossé, co-autrice de cette étude.
Dans les rôles à très forte visibilité, les rôles principaux, Il y a très peu de comédiens perçus comme non-blancs. En revanche, plus on descend dans la hiérarchie, plus ils vont trouver de rôles. Ça assigne ces comédiens et ces comédiennes à des rôles secondaires, mais aussi beaucoup à ce qu'on appelle des rôles fonctions, qui ont un usage avant tout dans la narration, la juge, le médecin, l'infirmière, etc. Des personnages qui font avancer le récit, mais des rôles assez peu complexes.
Autre problème pointé par cette étude, difficile pour des comédiens perçus comme non-blancs d'incarner Macbeth ou Antigone au théâtre. Contrairement au théâtre contemporain, plus facile d'accès, le théâtre classique leur laisse peu de place au nom d'un principe de vraisemblance dont on pourrait aujourd'hui se défaire. Ces difficultés à accéder à des rôles provoquent une grande lassitude chez ces comédiens, particulièrement au cinéma, précise Sarah Lécossé.
Ils sont nombreux et nombreuses à dire qu'ils ne peuvent pas incarner la France à l'écran. C'est-à-dire qu'ils vont jouer des rôles de migrants, qui parlent difficilement le français, etc., pour des productions françaises. Mais parfois, pour des productions étrangères qui sont tournées en France, là, on va les recruter pour jouer des Français. Et ça donne envie à ceux qui sont anglophones d'aller travailler ailleurs pour éviter ce racisme et ces discriminations qu'ils vivent au quotidien.
Les auteurs de l'étude proposent donc de renforcer les dispositifs permettant de signaler ces dysfonctionnements, à l'image de ce qui se fait désormais pour les violences sexistes et sexuelles dans le monde du cinéma.
Pierre Roper, le temps de demain matin sera nuageux et pluvieux sur une large moitié nord du pays. Perturbations qui occuperont quasiment tout le pays l'après-midi, avec risque d'orage de Lyon à l'Ariège, les températures entre 12 et 16 le matin jusqu'à 20 l'après-midi.